tout d'abord le journal, les grands titres de ce dimanche 14 janvier. Fausse alerte à Hawaï sur l'arrivée d'un missile balistique. Les dirigeants africains critiquent les propos de Donald Trump sur, je cite, les pays de merde. En Australie, la communauté africaine se dit être, je cite, injustement martelée dans les médias. Le gouverneur de Hawaï, David Hidge, a présenté des excuses suite à une fausse alerte via SMS qu'un missile balistique se dirigeait vers l'archipel. L'alerte a semé la panique parmi les habitants et sur les réseaux sociaux. Selon les services d'urgence, le message aurait été envoyé suite à une erreur humaine. Écoutez le gouverneur de Hawaï.
No, this should not have happened. We are investigating the sequence of events that occurred. An error was made in emergency management, which allowed this false alarm to be sent.
Le gouverneur de Hawaï. Les États-Unis sur le point de fêter le 89e anniversaire de la naissance de Martin Luther King Jr. dans le sillage des condamnations de Donald Trump pour des allégations d'avoir parlé de Haïti et des pays africains, comme je cite, des pays de merde. La fille de Martin Luther King Jr., Bernice King, pense que c'est le moment idéal pour que l'Amérique corrige son histoire de racisme et d'inégalité.
I think what we are seeing and experiencing in today's climate has always been there. I don't necessarily see it as bad. I see it as an opportunity to finally slay the giant of racism.
Bernice King. Et puis la démission de l'ambassadeur américain au Panama qui dit qu'il ne peut plus travailler, plus servir sous la présidence de Donald Trump. Et puis des manifestants soutenant Donald Trump ont protesté à Londres contre le maire de Londres, Sadiq Khan, demandant que le maire soit arrêté. Sadiq Khan était à une conférence d'un think tank de gauche sur l'égalité des sexes et il avait ces mots à dire en référence aux manifestants pro Trump.
It is a pleasure to be here, even though we were distracted by the actions of what some would call very stable geniuses.
Voilà, le maire de Londres. En Australie, la communauté africaine de Melbourne se dit être, je cite, injustement martelée dans les médias suite aux critiques des politiques fédéraux accusant le gouvernement de Daniel Andrews du Victoria de mal gérer la violence des gangs. Zion Walker-Fenda, présidente de Incubate Foundation, déclare qu'elle garde un espoir prometteur pour le Victoria.
It is rather difficult, and my sense around right-wing groups who are mobilizing is we can't define ourselves by our worst fears. We can't leave a legacy of fear and have that drive us as a community. Victoria is a very progressive, forward-thinking, inclusive community, and that's been our sort of governing, authorizing mandate thus far, and I believe that's what's going to take us forward.
Voilà la présidente de Incubate Foundation. Le porte-parole de l'opposition fédérale sur les questions de finances, Chris Bowen, déclare que les victimes des mauvaises décisions des grandes banques du pays devraient être entendues lors de la commission royale sur les banques.
The Royal Commission should be able to hear from all Australians on, not just have a conversation amongst banks and financial services providers.
Voilà, c'était Chris Bowen, le porte-parole de l'opposition. Et puis l'ACTU, le Conseil des syndicats en Australie, a mis en place un site internet pour que les victimes de ces mauvaises décisions bancaires puissent témoigner. On écoute la présidente de l'ACTU, Ged Kearney.
The people who need to be heard in this Royal Commission are their customers. Everyday Australians who, well, let's face it, some people have been financially ruined. Some people have been charged exorbitant fees for costs for things they didn't actually purchase. There's been money laundering going through these banks. We really need to hear from the community about the banks if this is going to be a bona fide, really good, hard look at how the banks have behaved in an unethical manner.
La présidente de l'ACTU, la Commission royale, présentera son rapport en février de l'année prochaine, en 2019. La police de Tasmanie inquiète pour un touriste de l'Australie occidentale de 58 ans, disparu au nord de l'île. Sa voiture aurait été abandonnée dans une région près de Poatina depuis le mois de novembre. Écoutez l'inspecteur de police Scott Flood qui est sur l'ABC.
We certainly hold grave concerns for his welfare. But again, it's not inconceivable that he is alive. And certainly if it is, we'd like him to contact us. But look, we do hold grave fears at this stage for sure.
Voilà, le porte-parole de la police de Tasmanie. L'aéroport de Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, va rouvrir ce dimanche après un feu de brousse dans la région. Les vols avaient été annulés hier et les vents d'ouest menaçaient de répandre les feux. Au Japon, des chutes de neige assez importantes dans l'ouest du pays. Les routes sont bloquées et les résidents disent que les chutes de neige sont une surprise. Témoignage.
I never expected such a heavy snow, which really startled me. I feel there are fewer goods in the supermarket than usual. Yesterday, I went to the supermarket and deliberately bought more than usual, just in case.
En Californie du Sud, les glissements de terrain ont fait au moins 18 morts depuis mardi dernier. Les recherches se poursuivent pour 5 personnes portées toujours disparues. Les États-Unis ne continueront pas à maintenir la levée des sanctions économiques contre l'Iran tout en demandant une renégociation de l'accord nucléaire de 2015. La Russie a critiqué les États-Unis. Précision de Anastasia Becchio pour Radio France Internationale.
Les États-Unis feraient un très mauvais calcul s'ils sortaient de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, a expliqué le ministre adjoint des Affaires étrangères à plusieurs médias russes. Pour Sergueï Ryabkov, cela pourrait même être l'une des graves erreurs de Washington en politique étrangère. Il dénonce des méthodes de chantage et de pression de la part de Washington et une décision qui donne un mauvais signal et pourrait avoir des conséquences dans un autre dossier sensible, celui des ambitions nucléaires de la Corée du Nord. Le diplomate russe fait part de son incompréhension face au projet de Donald Trump de corriger cet accord avec les partenaires européens en excluant de fait l'Iran, la Chine et la Russie d'éventuelles négociations. Nous ne comprenons pas ce que nos collègues américains veulent dire quand ils parlent d'élaborer un nouveau texte censé corriger les défauts de l'accord existant, s'interroge Sergueï Ryabkov. Avant de poursuivre, en réalité cela ne nous intéresse pas car le plan d'action conjoint sur le programme nucléaire iranien n'a pas besoin d'être corrigé. Le numéro 2 du ministère russe des Affaires étrangères affirme que son pays fera tout ce qui est en son pouvoir pour sauver cet accord, tout en appelant à un intense travail entre Moscou, Pékin et les Européens.
Anastasia Becchio, 20 000 manifestants ont protesté hier en Autriche, dans les rues de Vienne, contre le nouveau gouvernement qui comprend 6 ministres d'extrême droite au pouvoir depuis moins d'un mois. Reportage Isorias pour RFI.
Ils sont des milliers à se diriger en musique vers la chancellerie, car c'est bien la politique du nouveau gouvernement que les manifestants critiquent, à l'image de Sarah Knoll qui défile pour la première fois.
Le nouveau gouvernement va pénaliser les gens les plus pauvres. Il souhaite par exemple réduire drastiquement les allocations des chômeurs.
Beaucoup s'inquiètent d'une dérive droitière de l'Autriche et s'indignent des dérapages des ministres d'extrême droite ces derniers jours. C'est pour cela que Dominique Schaller est venu manifester.
Herbert Kickl, notre ministre de l'Intérieur, a dit que les migrants devaient être concentrés dans des centres, un mot qui rappelle de sombres heures de l'histoire. C'est une honte, il faut au moins venir protester contre cela.
Mais l'heure n'est pas au pessimisme. Les manifestants comme Myriam Strauss sont bien décidés à continuer le mouvement dans les mois à venir.
Il faut bien que quelqu'un parle et dise qu'avec leur politique, on retourne des années en arrière. Tant que les choses n'iront pas mieux, on doit continuer de manifester. Cela pourrait conduire le gouvernement à changer certaines choses.
Cette résistance est toutefois le fait d'une minorité d'Autrichiens. On est bien loin des quelques 250 000 manifestants en 2000, lorsque déjà l'extrême droite était entrée au gouvernement.
Isorias pour RFI. Les Tchèques repartiront aux urnes les 26 et 27 janvier prochains pour un second tour présidentiel entre le chef de l'État sortant, le pro-russe Miloš Zeman, face à son rival, le pro-européen Jiří Drahoš. Jelena Tomić, RFI.
Miloš Zeman a réussi sans surprise à s'imposer au premier tour de l'élection présidentielle, sans toutefois réussir à remporter plus de la moitié des suffrages qui lui auraient évité un second tour. Il devra donc affronter les 26 et 27 janvier son rival, arrivé deuxième, Jiří Drahoš, le candidat pro-occidental. On s'achemine donc vers un duel serré, car même si un écart important sépare les deux concurrents au premier tour, le second tour risque de créer la surprise avec un possible report de voix d'une partie des candidats malheureux du premier tour et qui inviteront leurs électeurs à voter pour l'ancien chef de l'Académie des sciences, l'adversaire du populiste Miloš Zeman. Le suspense reste donc entier et l'on peut s'attendre dans cette dernière ligne droite à une campagne très agitée entre deux candidats que tout oppose. Miloš Zeman, le populiste provocateur, connu aussi pour ses opinions pro-chinoises mais aussi anti-musulmanes, devra rivaliser face à l'atlantiste et pro-européen Jiří Drahoš, dont l'objectif sera avant tout de convaincre, en dehors de son électorat majoritairement urbain, les électeurs ruraux et ouvriers plutôt acquis à Miloš Zeman.
Yelena Tomic pour RFI. En Afrique du Sud, manifestation contre une publicité raciste de la boutique H&M qui vendait une veste sur laquelle était inscrit « Coolest Monkey in the Jungle ». Précision de Noé Oshéboda pour RFI.
Des centaines de combattants du parti IFF se sont réunis à Pretoria, au Cap et à Johannesburg pour vandaliser les magasins de l'enseigne H&M dans cette grande action coup de poing. À l'intérieur des magasins, c'est le chaos, les vêtements sont déchirés, les mannequins en plastique détruits et les baies vitrées explosées. La police a même dû tirer des balles en caoutchouc pour disperser les membres de l'IFF. Le leader du parti, Julius Malema, a tenu un point presse plus tard dans la journée, refusant les excuses de H&M pour la publicité et refusant à son tour de s'excuser pour le saccage des magasins. « Jamais nous n'accepterons l'humiliation faite aux Noirs », a-t-il déclaré. Très virulent, Malema a affirmé que H&M n'était qu'un début et que toutes les enseignes jugées racistes subiraient le même sort. « Le temps où nous étions effrayés par les Blancs est révolu », a-t-il ajouté, avant d'entonner le chant « Kiss de Bourg », un chant hostile aux Afrikaners du pays. En attendant, la communication de l'enseigne suédoise a annoncé que ses 15 magasins en Afrique du Sud seraient fermés temporairement.
Noé Oshéboda pour RFI. C'est la rentrée littéraire de janvier en France qui devient une date très importante après celle de la rentrée littéraire d'automne, comme nous l'explique Catherine Fruchon-Toussaint pour RFI.
De plus en plus, les écrivains français semblent préférer sortir leurs romans loin de la saison des prix littéraires. De fait, en janvier cette année, 498 nouveaux titres sont publiés, soit à peine moins qu'en septembre, et surtout ce sont des auteurs confirmés de forte notoriété. En tête, Pierre Lemaitre, Goncourt 2013, Delphine de Vigan, récompensée elle par le Renaudot, comme Frédéric Becbédé, suivi par Régis Joffré, prix Femina. De fait, ces écrivains n'ont plus rien à gagner, si ce n'est de nouveaux lecteurs. Tendance lourde aussi pour la production étrangère avec le livre très attendu de la romancière indienne Arundhati Roy qui revient à la fiction après 20 ans d'absence, de même que l'américain Paul Auster qui avec 4-3-2-1 propose un ouvrage de plus de 1000 pages. Côté premier roman, à noter aussi l'arrivée de célébrités puisque l'actrice Isabelle Carré, le cinéaste Régis Varnier et le chanteur Kali se lancent dans l'écriture. Enfin, très attendu, la publication posthume de l'ultime texte de Jean d'Ormesson qui, un mois après sa disparition, paraît sous le titre « Et moi, je vis toujours ».
Catherine Fruchon-Toussaint, coup d'œil météo pour ce dimanche. En Australie, Perth, un maximal de 31 degrés, Adélaïde 25, Melbourne 20, Hobart 21, Canberra 22, Sydney 23, Brisbane 38, Cairns 35, Darwin 34 et à Alice Springs, maximal de 31 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. Fausse alerte à Hawaï sur l'arrivée d'un missile balistique. En Australie, la communauté africaine se dit être, je cite, injustement martelée dans les médias. Fin du journal. Merci à vous de rester avec nous.